Allez les jeunes. Super les guitares. Putain la rythmique. Le pied du bon. Waouh.
Et salut les jeunes, on se retrouve en ce mois de mars, ça faisait longtemps qu'on se voyait plus, encore une fois avec Gabin. Gabin, comment vas-tu ?
Et je vais très bien, Julian, j'espère que ça va pour toi aussi.
Ça va, et surtout aujourd'hui puisqu'on accueille aujourd'hui les Colosses Blésoises, donc avec Lucie et Marie, c'est ça ?
Donc enchanté, on est content de vous retrouver. Donc vous l'avez peut-être vu depuis quelques mois sur les murs des villes françaises, on voit apparaître des collages qui nous interpellent tous et toutes sur la place laissée aux femmes dans la société et le sort qui leur est réservé. Et aujourd'hui, Marie et Lucie vont parler de leur engagement dans le collectif des Colosses Blésoises, des Collages Féministes Blésois.
Oui, c'est ça.
Alors, pouvez-vous me décrire en quelques mots ce que vous faites et ce que c'est votre collectif ?
C'est un collectif qu'on a créé il y a une petite année. Enfin, là, ça doit faire un an, juste avant le premier confinement. Donc, ça n'a pas marché tout de suite. On a commencé à coller au mois de juillet. Et en fait, c'était suite... Enfin, moi, j'étais toute seule, en fait. Enfin, j'avais l'impression d'être toute seule à Blois, à être à militer pour le féminisme. Et suite à l'affaire Polanski et tout ce qui s'en est suivi, j'en ai eu marre et j'ai décidé de tenter. Donc j'ai créé un compte Instagram avec juste une image qui disait « si vous êtes déter, envoyez un message et puis on crée un groupe où on pourra après aller coller ». Et donc en fait tout de suite ça a pris et je me suis rendu compte que j'étais loin d'être toute seule. Maintenant on est quoi ? On est une vingtaine ?
Ouais, une trentaine presque.
Trentaine,
ah c'est sympa.
Donc voilà, donc on colle sur les murs un petit peu notre colère en fonction de ce qui se passe autour de nous et puis... de ce qu'on sait, de la condition des femmes et des minorités aussi silencieuses.
Mais elle vient d'où cette idée de justement coller ? C'est un mouvement qui a commencé dans d'autres villes, c'est ça, non ?
Ouais, ça a commencé à Paris en septembre 2019, je crois.
Ouais, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Les collages ont eu lieu officiellement à Marseille. C'était une militante féminine qui faisait ça. Et ça a été vraiment lancé après à Paris. Du coup, ouais, pas... Je sais pas, elles étaient une petite dizaine au début, puis là je crois qu'elles sont plus de 3000 à Paris à coller régulièrement donc sur les murs parisiens, et je crois qu'il y a à peu près plus de 100 collectifs en France.
Oh, largement, ouais, je crois, et puis même ça maintenant c'est devenu un peu mondial, parce qu'en Europe il y a plusieurs collectifs aussi. Donc,
il y en a même à Montréal.
Oui, j'avais bon vu un article de Libé qui parlait que ça avait essaimé un peu partout dans le monde. On voyait même en Syrie des collages avec des feuilles A4 et des grandes lettres noires.
Ouais, c'est fou que ça ait pris comme ça. Mais je trouve que c'est un bon moyen aussi de s'exprimer et d'afficher un peu la colère qu'on a sur les murs. Et c'est un petit peu aussi... je trouve ça intéressant aussi dans le sens où c'est de la désobéissance civile. Et que voilà, ça nous donne aussi une façon de se réapproprier la rue.
Ouais. Puis de sortir des choses qui sont souvent considérées comme étant des choses intimes au foyer ou des choses comme ça. Il y a toujours un peu ce regard-là sur les violences sexuelles, les violences conjugales, qui sont toujours considérées comme des choses étant un peu intimes, qui concernent le couple. Et en fait, les faire sortir en pleine rue, ça donne une autre dimension et ça visibilise les messages là où les gens ont tendance à dire « non, c'est pas nos affaires ». En fait, on explique que c'est un problème de société et que c'est systémique quasiment, ce genre de souci. Et que les mettre dans la rue, les afficher, c'est les afficher pour tous.
C'est ça.
Et ça permet aussi de prendre l'espace de la rue, qui n'est pas un espace dédié aux femmes non plus, et qui permet un peu de changer le rapport de force à ce niveau-là, quoi. Mettre des messages féministes dans la rue, c'est quand même quelque chose qui est risqué, déjà, et qui... et qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Ça a été fait en Angleterre par les suffragettes, mais c'était il y a quand même très très longtemps maintenant.
Effectivement, ça fait un petit moment que peut-être ça manquait dans les rues, ces messages pour nous interpeller, tous et toutes sur la place qu'on laisse aux femmes et aux minorités dans le quotidien et dans notre société. Mais vous parliez de colère que vous vouliez écrire sur les murs. C'est quoi les messages importants que vous passez, par exemple, en ce moment, ou alors... c'est les derniers messages que vous avez voulu laisser passer sur les murs de Blois.
Moi, je pense particulier à un mini collage qu'on avait fait qui était Violeur à ton tour d'avoir peur. Le tout premier qu'on a fait aussi, Violeur touche pas à nos sœurs, était quand même déjà quelque chose qui était un peu qui reflétait à la fois la solidarité entre, la sororité, la delphité entre femmes, et puis.
Ça va être des témoignages aussi en fonction de nos vécus. Nous, on colle beaucoup sur le viol parce que c'est quelque chose qui concerne finalement beaucoup de personnes qui collent avec nous. Et voilà, pour nous, c'était important aussi que les gens sachent que ça arrive et que ça arrive souvent. Et aussi, le fait de pouvoir écrire sur le mur, c'est quelque chose aussi de hyper empouvoirment, en fait. Quand on va coller, on se revient, on se sent hyper forte. Et on a l'impression que bah voilà, on a crié haut et fort notre colère. Ouais. Et c'est un petit peu thérapeutique aussi, je pense, ouais, pour les personnes qui collent.
Et puis, c'est très visuel, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui interpelle les gens. Moi, je le vois au quotidien, des gens dans la rue que je peux côtoyer, que je peux voir, qui réagissent à ces collages. Alors, avec différentes opinions, mais qui réagissent. Et je pense que c'est aussi le but, c'est d'interpeller. Et de, par exemple, j'avais vu dans La Nouvelle République une partie où vous expliquiez qu'un homme était venu dans la rue vous voir et vous dire que c'était, qu'il trouvait ça un peu extrémiste. Ouais. Mais vous avez pris le temps de lui expliquer. Et justement, à la fin, il est devenu compréhensif envers cette action. Et donc, c'est aussi de, ben voilà, peut-être d'ouvrir le débat et de parler avec les gens à ce niveau-là, peut-être, ouais, aussi.
Moi, pour avoir vécu ce moment-là, du coup, moi, j'étais présente à ce jour-là. Et c'est vrai qu'il y avait un truc hyper violent dans ce qui s'est passé quand même, parce que c'était lui, en fait, qui était violent, qui venait nous voir en nous disant « Oui, c'est extrémiste que vous mettez sur les murs ». Et en fait, nous qui lui expliquons qu'en fait, on est des victimes et qu'à un moment ou un autre, la justice ne nous reconnaît pas. Il faut savoir qu'en France, c'est 1% des violeurs condamnés pour viol directement. Mmh. Et c'est à peine 10% des victimes qui portent plainte. On sait comment la police est aujourd'hui. Et cet homme-là nous a demandé si on était victime. Moi, je lui ai expliqué que c'était mon cas. Et cette personne-là, en fait, m'a regardé et m'a dit « Mais alors, pourquoi vous n'avez pas déposé plainte ?» En fait, il y avait une violence, en fait, un peu verbale de tout ça qui était plus de son côté à lui, qui refusait de comprendre en fait ce qu'on lui disait. Et il a quand même malgré tout fini par comme je lui ai dit que c'était mon cas, ça l'a déstabilisé, il s'y est pas attendu. Il m'a dit vous avez pas déposé plainte, je vais expliquer pourquoi. Et il est reparti, il a compris. Mais du coup ça crée des dialogues, mais c'est toujours quand il y a des hommes comme ça qui nous interpellent dans la rue, ça reste toujours un peu des moments de violence pour nous parce que
il y a
des concernés, quoi.
Il y a aussi ce côté aussi de c'est quoi qui est violent en fait dans ce qu'on fait. Nous on est extrême quand on va coller des feuilles dans la rue. Moi déjà ça me fait rire qu'on puisse être interpellé par la police pour avoir collé des messages dans la rue, mais alors qu'on me dise que je suis extrême parce que je vais coller des feuilles A4 sur la rue. Moi c'est ce qu'on raconte sur les murs, ce qu'on colle qui est extrême. C'est quand on dit que toutes les 7 ou 9 minutes il y a un viol qui est perpétré en France, là ça c'est violent, ça c'est extrême. Moi ce que je fais dans la rue avec mon seau de colle et mes feuilles, c'est pas extrême.
Ouais, c'est ça, du poids de mesure sur le sujet à chaque fois.
Oui, c'est sûr que c'est un peu dur, genre lorsqu'on est victime, d'être obligé de se justifier de son action, obligé de dire et d'être conciliant alors qu'on n'aurait pas besoin normalement.
Mmh. Ouais, je sais qu'après dans le groupe, on a plusieurs personnes qui sont un peu plus pédagogues que d'autres. Ouais. Moi, je sais que la pédagogie, c'est plus mon truc. Et encore, je fais un podcast du coup.
Ouais, ça va, en vrai.
Je fais ça dans mon podcast, mais sinon, j'ai du mal à expliquer parce qu'à un moment, il faut que les gens aussi se renseignent et qu'ils essayent de trouver. Enfin voilà, moi, si j'ai réussi à me déconstruire, si on est 30, avoir réussi à se déconstruire, en tout cas, essayer de se déconstruire tous les jours un peu plus, ça veut dire que c'est possible et que maintenant, on a accès à plein d'informations qui nous permettent de le faire sans à chaque fois venir interpeller des gens qui font rien de mal. Et puis souvent avec violence, quoi, même sur le compte Instagram. C'est souvent où les gens ils viennent nous voir et font « Ah, pourquoi vous faites ça ?» Ouais, d'accord, mais on fait ça parce que c'est important.
D'un autre côté, personnellement, je vous ai déjà vu sur les murs blésois les collages que vous faites avec votre collectif. Mais aussi, j'étais un petit peu interpellé, plutôt de façon positive, à vous entendre, à vous joindre lors de manifestations, par exemple la proposition, la deuxième manifestation contre la proposition de sécurité globale, où vous faisiez partie du collectif qui appelait à manifester. Pour vous, c'est quoi l'importance d'aller vers d'autres luttes que celles du féminisme de base ou du féministe pur et dur, j'ai envie de dire?
Parce que le féminisme, c'est pas qu'une histoire d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une question de changement de système totalement, de reconnaître les systèmes de domination et de faire en sorte que ça inclut forcément d'être antiraciste pour moi, d'être militant LGBT. Et puis pour la loi sécurité globale, il y avait aussi ce côté de répression policière qui malgré tout nous touche. Enfin, on a malgré tout été déjà arrêté par la police. Alors Blois, ça se passe bien, mais on sait qu'il y a des villes qui ont plus de difficultés. Je pense à Nantes, par exemple, où les colleuses se sont fait arrêter. Elles ont été violentées, le procès est dans pas longtemps, d'ailleurs. Mmh. Et Bordeaux, c'est pareil, il y a eu des arrestations qui ont été faites. Les colleuses qui ont failli se faire écraser par des voitures de policiers.
Oui, quand même.
Ouais, ça va.
Alors du coup, elle
n'était
pas en train de coller, par contre, cette femme-là. Mais c'était une colleuse, mais du coup, elle a failli se faire écraser par une voiture de policiers. Enfin, on sent bien qu'il y a quand même une dérive au niveau de la police en France. Et... Bah forcément, nous, on est aussi en première ligne là-dessus. Enfin, en étant militant, on sait qu'aujourd'hui, les taux se resserrent quand même un peu. Enfin, la loi sécurité globale, c'était important de se positionner dessus. C'est quand même l'avenir de notre pays et enfin, faut quand même avoir un peu un œil dessus.
Très bien, ça se comprend. Ça. Mais du coup, vous parliez de vos violences policières, tout ça. Vous avez dit qu'à Blois, ça se passait plutôt bien. Mais est-ce que vous ressentez au quotidien, quand vous allez coller, un certain risque ou ce genre de choses vis-à-vis de ça?
Bah, Marie s'est déjà fait arrêter avec une autre colleuse. Hein, donc forcément, bon, alors, même si pour l'instant, donc là, on a une avocate maintenant, donc là depuis peu. Donc ça va nous aider aussi pour se défendre. Après, pour l'instant, on n'est pas trop menacé dans le sens où apparemment, on aurait des juges qui seraient un peu favorables... En tout cas, qui ne veulent pas trop se mouiller en interpellant des féministes. Et donc, on a aussi cette mode du féminisme et du fait qu'on entend beaucoup parler dans les médias et tout ça, qui fait que ça nous protège un petit peu plus. Après, on sait que les policiers, ils sont pas hyper chauds de ce qu'on fait. Et voilà, ça vous a quand même valu un rappel à la loi. Donc, ouais. Même si c'est rien, pour avoir collé des feuilles sur des murs, je trouve ça toujours...
Que de la du rappel à la loi, on est fiché comme militante, quoi.
Ouais.
Donc c'est forcément ça change un peu quand on va coller, on se dit bon si je me refais prendre c'est récidive. Mais après ça, enfin je pense que même les policiers qui nous ont arrêtés dans le fond, enfin ils étaient, c'était la forme plus qui les dérangeait que le fond. Après ça reste toujours de la façon de dire quelqu'un vient t'expliquer comment gérer ta lutte.
Oui, c'est ça.
Rouliane, tu as peut-être une question?
Oui, justement, dans les différents messages que j'ai vus sur le compte Insta, il y a aussi ben, voilà, de mettre la vérité dans les rues, mais aussi aller vers les victimes, comme par exemple le message « tu n'es pas seul ». Moi, c'est quelque chose qui tout de suite m'a interpellé, parce que j'ai déjà eu à gérer des problèmes de ce genre où ben voilà, le but c'est déjà de dire, et je pense que vous serez d'accord, vous pourrez répondre, mais sur le fait que la première chose c'est aller vers les victimes et être avec elles. Je pense que quand il y a ce genre de choses, il faut les écouter, comme dans différents collages que vous avez fait. Et justement, je voulais savoir un petit peu sur ce côté-là. Il y a aussi une grande importance de recueillir, par exemple, dans votre association, mais les victimes de ce genre d'agissement et de les aider aussi via ce collectif, peut-être.
Ouais, c'est ça. Puis vraiment, moi, je reviens au truc, il y a ce côté thérapeutique à aller coller aussi son témoignage et peut-être une personne qui a été victime de violence, voir tu n'es pas seule, on te croit. Et quoi qu'il arrive, en fait, c'est ta parole qui compte et c'est pas celle des autres, enfin, des agresseurs. C'est important, je pense. Et puis, quand on sait que quand on se fait violer, quand on est victime de violence, il n'y a pas une institution qui est là pour nous soutenir. Enfin voilà, on peut aller voir la police, il se passera rien, la justice, il se passera. Enfin, c'est très rare qu'il se passe quelque chose. Donc avoir ce genre de message et savoir qu'il y a des oreilles, des gens qui sont là pour écouter et pour soutenir. Enfin nous, je sais qu'on accueille tout le monde dans les collectifs et que c'est arrivé plusieurs fois que des personnes souhaitent coller leur témoignage et qu'on les accompagne dans ce sens-là, qu'on fasse des petites sessions. Moi, quand j'ai collé le mien, on a été toutes les deux. Coller le mien et ça a mis, je sais pas, j'ai dû mettre 6 mois avant de réussir à l'écrire et après réussir à aller le coller. Et en fait, après, je me suis sentie libérée d'impôts aussi. Donc vraiment, j'encourage les gens, même s'ils n'ont pas envie d'aller coller, venir avec nous lors des rassemblements, quand on se prépare, quand on prépare les collages, on discute vachement, on parle de tout. Enfin, c'est un espace ouvert. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont pu mettre une première fois des mots sur ce qu'ils ont vécu. Ouais.
Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup choquée depuis que je colle, c'est que je me rends compte qu'on est hyper nombreuses. Enfin, moi, quand ça m'est arrivé, enfin, me faire violer, c'était... Ouais, je sais pas, enfin, moi, j'avais l'impression que j'étais toute seule, que ça m'est arrivé, que c'était un accident de parcours, comme tu peux te faire voler ton sac à main dans la rue, tu vois. Et c'est un peu naze comme image.
Oui, c'était un peu hésitant.
Ouais, tu vois, mais c'est pour donner un truc. Et en fait, quand Enfin, maintenant que j'en parle, que je l'ai verbalisé, que les gens, enfin, que mon entourage sait que je colle ou des choses comme ça, mais en fait, je me rends compte que... On est hyper nombreuses, enfin, franchement, et on était beaucoup mineures, enfin, franchement, mineures ou tout juste majeures. Et on connaissait quasiment toutes nos agresseurs. Les gens, quand ils pensent au viol, ils s'imaginent que c'est un mec cagoulé dans la rue, dans un parking, qui va venir te violer avec un flingue. Si la réalité était aussi simple, ce serait, entre guillemets... cool, entre guillemets.
Oui, c'est vrai que cette image un peu genre du violeur dans la rue, c'est complètement une image fausse et un imaginaire.
Ça revient aussi aux dernières infos qui sont sorties, par exemple sur l'inceste, dont vous avez fait aussi des collages. C'est aussi le moment où on sort un petit peu des secrets qui restent à l'intérieur et qui sont aujourd'hui mis justement à la rue, dont on parlait tout à l'heure. Quoi.
Ouais, il y a une libération de la parole des victimes, ça c'est indéniable. Après, je ne suis pas sûre qu'elle soit toujours entendue, mais derrière, il n'y a rien qui suit. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne comprend rien.
Et surtout, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se préoccuper de ce qui va arriver à l'agresseur.
Ouais, c'est
ça. Moi, c'est un truc qui me fascine assez, c'est-à-dire demain, il y a un mec qui tue quelqu'un, on va lui dire « ouais, non, mais quand même, c'est chaud ».
Ouais.
Tu vois, non, mais attendez, il a juste pété un boulon, ça va aller. D'ailleurs, c'est le truc qu'on entend dans les pour les féminicides. Hein.
Ouais.
C'est vrai, mais il a juste pété un boulon, était un peu chiant.
Oui, c'est vrai qu'on retrouve ça assez souvent, surtout dans les. Quand plus les personnes sont connues, plus il y a de causes qui peuvent expliquer le passage à l'acte.
Ouais, c'est ça. Ce genre de choses. Alors que. Il a ruiné une carrière, alors que. Enfin, lui, il a ruiné une vie. Bah, la présomption d'innocence, c'est le truc qu'on ressort un peu à toutes les sauces, mais qui n'a finalement que peu de valeur parce que. Ok, moi je suis d'accord sur le fait que, bah, bien sûr que la personne est peut-être innocente. En attendant, ça n'empêche pas de croire la victime et de l'écouter et de mettre de la valeur sur sa parole, en fait.
Puis d'être neutre, en fait, hein. À défaut de croire la victime, tu vois. Au moins être neutre. Pas dire c'est ni l'un ni l'autre, je sais pas, quoi.
Puis,
moi, je crois les victimes, mais si tu vois, t'as du mal avec le fait de dire je prends un parti, bah dans ces cas-là, prends-en aucun et défends ni l'un ni l'autre, en fait. Mm.
Très bien. sinon, on avait une autre question. Comment on arrive à joindre sa vie de collage, être dans l'activisme politique et son autre vie? Genre, je sais pas si...
Là, je suis en vacances, mais normalement, ça fait des cernes un peu. On peut pas voir, mais j'ai des trous sous les yeux. Et encore, là, il y a le couvre-feu, du coup, on colle tôt. Mais sinon, c'était 1-2 heures du mat, et puis le lendemain, on va travailler et on recommence, et ainsi de suite. Et non, c'est fatigant.
Ah oui, donc c'est assez dur de coller.
Ouais.
Et sinon, un petit tuto colle peut-être, comment bien faire sa colle?
Alors, on ne fait pas encore de colle écologique, nous, on a là, avec le cours de feu, on reprend de la colle à papier peint qui est réversible, etc. Sinon, après, pour faire de la colle écologique, c'est farine, sucre, et puis de l'eau.
Mais non, nous, sinon, on prend de la colle à papier peint basique.
On
n'est pas les bonnes cuisinières.
Non. On n'est pas très fort en colle encore. Hein.
Puis on n'a pas eu trop le temps non plus de...
Oh, ça va, ça s'est amélioré, parce qu'en juillet 2020, ça se décollait un peu avec la chaleur, tout ça.
Ouais.
Mais là, ça se colle de mieux en mieux.
Ouais, on y travaille. Ça soit de plus en plus difficile à arracher.
Ouais, non, ça se voit, vous inquiétez pas.
Puis on colle plus droit aussi, je trouve.
Ouais, ça s'est amélioré. Hein, ouais. Sur le... Ça peut partir...
Après,
c'est un certain style, j'aime bien, quand c'est pas forcément droit, quoi.
De toute façon, quand on va vite, on n'est pas...
Oui. Là, tu sens les collages où on est stressé, parce que souvent, ils sont pas droits.
Ouais.
T'es bien sereine et tout, souvent c'est bien droit, bien
propre. Il y a un investissement vestimentaire aussi qui fait que tous nos vêtements sont couverts de colle. On en a dans les cheveux. Un vrai problème là-dessus.
Eh bien, je pense qu'on va finir par la question que j'aime toujours poser. C'est 3 mots pour définir votre collectif.
Ah, on peut vous laisser un peu de temps.
Militante, pas délinquante, non, ça marche. Militante, pas délinquante.
Oh.
Ah, c'est très beau, ça.
On l'a bien collé, celui-là.
Ouais. Non, je suis pas inclusif, intersectionnel et féministe.
Eh bien, merci pour cette petite interview. Je vous ai demandé, on vous a demandé avec Rouliane de nous proposer un titre et de passer le titre qui va suivre. Comment s'appelle-t-il? Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement?
Je fais mon accent espagnol.
Vas-y, fais-nous ton accent.
Alors, c'est l'Astesis, El Violador en tu Camino. C'est une chanson qui a été faite par un collectif de théâtre, il me semble. Bolivien, il me semble. C'est bolivien, enfin d'Amérique latine. En réponse, du coup, au manque de moyens qu'il y a en Amérique latine aujourd'hui pour lutter contre les féminicides et les disparitions. Et elles ont inventé une choré qui a fait un peu le tour du monde et qui est répertoriée sur une carte interactive, d'ailleurs. J'ai vu.
Et que vous pourrez peut-être
voir le 6 mars.
Si vous nous rejoignez le 6 mars pour
la manifestation.
L'Astesis, un violador en tu camino.
El patriarcado es un juez.
Et on se retrouve après ce petit morceau de Lastesis. Et tout de suite, Berlioz et moi, je crois.
Je crois, ouais.
Ouais, ouais.
Vas-y.
On se met ça tout de suite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un groupe que je connais depuis assez longtemps. Il s'agit du groupe d'Evreux appelé Metro Verlaine. Je voudrais écouter avec vous un de leurs premiers titres sorti en 2015, Manchester. Comme vous l'avez entendu, Metro Verlaine se plaît à faire du garage rock en langue française qui colle au smell comme la bière en fin de concert. Ce groupe, qui mêle référence au rock des 80s et grande littérature française, a sorti son premier EP en 2015, sur lequel figure le morceau qui nous intéresse aujourd'hui. Trois ans plus tard, il sort son premier album, incluant les titres de l'EP réenregistrés et plusieurs exclus. Il y a donc deux versions studio de Manchester, celle de 2015 qui est plus brute, dont la guitare prend une place plus importante, alors que la version de 2018 laisse plus de place à la voix. D'ailleurs, l'album de 2018, Cut Up, est sorti sous le label Hold On Music, un label que j'apprécie tout particulièrement, car il rassemble des groupes comme Bandy Bandy ou encore You Said Strange. Mais revenons à Metro Verlaine et à son titre Manchester. Manchester est une ode à cette ville anglaise qui a une atmosphère particulièrement rock, selon Raphaël, la chanteuse du groupe. En effet, la pluie de briques, la pluie, les briques et la brume donnent un caractère spécial à cette ville, et pour le groupe, c'est sûr, c'est là-bas qu'il faut être. En plus, quoi de mieux que Manchester pour symboliser le rock 80s, une ville qui a vu naître un groupe comme Joy Division. Eh bien, Metro Verlaine veut aller à Manchester, cette ville symbolisant la naissance d'un certain rock, s'y imprégner de ses murs de briques, de la pluie incessante, et y aller pour terminer une vie de façon totalement rock'n'roll.
Par l'hiver.
C'était donc Manchester, le titre de Metro Verlaine.
Oui, vous avez bien entendu, les jeunes.
Oui, Roulian.
Donc, on donc, part sur une petite chronique ciné, il me semble.
Oui, on part sur ta chronique Cinétime tout de suite. Cinétime.
Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ?
Personnellement, pas trop. La dernière fois, on parlait des studios Pixar et Disney, dont je vous remercie déjà de l'accueil et des bons retours que vous nous avez envoyés. Aujourd'hui, on va vous parler d'un autre grand studio qui est la Warner. Alors, moi, j'ai plutôt l'habitude de dire que c'est un studio qui est capable du pire comme du meilleur. Mais bon, c'est sûr que ça lui a fallu, ou en tout cas valu, pardon, nombre de scandales depuis sa création le 14 avril 1923. Mais bon, je ne suis pas très original, du coup, je vais également parler de ces scandales. Et bien sûr, je pense aujourd'hui à Justice League, Snyder's Cut, aka Hollywood vaincu par les fans. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu, mais avant, je vais essayer de remettre la situation en place et de vous expliquer. Puisqu'en 2016, le film de Justice League est annoncé à l'occasion de la sortie de Batman vs Superman. Deuxième film après Man of Steel du DCU, le DC Extended Universe, l'équivalent du MCU, Marvel Cinematic Universe, mais chez les héros DC sous la production de la Warner, qui construit l'univers imaginé par le réalisateur de 300 ou encore Watchmen. Je nomme Zack Snyder. Alors à ce moment-là, la Warner lui laisse plus ou moins les clés de tout le futur de l'univers en fait. On parle ici des fondations de dizaines de films entre ses mains. Cependant, bon, voilà, il faut quand même le dire, après les premières critiques envers BVS, donc Batman vs Superman, la Warner est pas trop chaud, elle perd un peu confiance avec le réalisateur, d'autant plus que Snyder est un réalisateur engagé politiquement, qui en plus aime bien insérer des références divines et mythologiques dans les constructions de ses récits, de ses personnages, tels Batman, Superman et Wonder Woman, élevés au rang des dieux par ses deux premiers films par exemple. Mais Zack n'a pas le temps, en tout cas, de se reposer, puisqu'il doit immédiatement enchaîner avec la production de Justice League, qui doit sortir à peine un an plus tard. À ce moment-là, la Warner est plutôt influençable et effrayée par les critiques, le poids culturel ainsi qu'économique que représente le MCU à ce moment-là. Et malheureusement, cède à certaines critiques, telles le manque d'humour dans les films de Snyder, quelque chose qu'on lui reproche assez souvent. En plus de cela, le film est raccourci. Il passe de deux films à un film. Il est limité à 2 heures, il perd donc un peu sa liberté artistique et se retrouve même avec deux producteurs des hautes sphères du studio qui vérifient que Snyder fait les bonnes choses sur le plateau. On va dire que c'est un petit peu comme des babysitters, on commence à se dire que ça devient un petit peu n'importe quoi. Mais le 12 mars 2017, coup de tonnerre chez la famille Snyder, Zack perd sa fille après un suicide. Il décide peu après de quitter la production de Justice League pour se recueillir auprès de ses proches. Et l'histoire, c'est que la Warner n'attendait que ça, en fait, pour pouvoir le remplacer. Finalement, ils choisissent Josh Whedon, réalisateur des deux premiers Avengers, soit l'occasion, en fait, parfaite de copier-coller le modèle de Marvel, comme le souhaitait le studio. Résultat, Whedon retourne 70% du film, et ce dernier sort le 15 novembre 2017, jour du décès du DCU, moi je l'appelle comme ça. En effet, le film a très mal été reçu par la presse et le grand public, jusqu'à tomber dans les oubliettes. Un Batman qui rigole, un cyborg inexistant, un Flash marvelisé à son paroxysme, la fameuse moustache de Henry Cavill, aka Superman, effacée en prod, vraiment c'était dégueulasse, son visage était complètement déformé, parce qu'il avait un autre rôle dans un autre film, et donc quand il a dû revenir pour re-shooter ses scènes, il avait sa moustache, il ne voulait pas la raser. Du coup, problème, comment on fait pour la supprimer? Le résultat, il n'est pas ouf, quoi. Bref, un vrai désastre économique et cinématographique du film de super-héros, quand même. le plus cher de toute l'histoire d'Hollywood. C'est quand même incroyable. Sauf qu'en 2020, retournement de situation avec l'annonce de la Snyder Cut, soit la découpe du film à l'image du réalisateur, à l'occasion de l'arrivée de HBO Max. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de HBO Max, mais c'est un petit peu le Disney Plus Netflix de Warner qui veut s'installer à travers le monde. Et, mais ce retournement de situation, en fait, ça fait déjà un moment qu'il est cherché, puisque ça fait des années qu'une vraie communauté de fans manifestait pour la sortie au cinéma de la vraie version de la Justice League, comme l'avait imaginé au départ Zack Snyder. C'est du jamais vu en studio comme la Warner qui cède à la pression des fans. Il y a en réalité deux réalités à cette histoire, en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. La première, c'est que la vraie dynamique de ce mouvement n'était pas pour le film en soi. On s'en fout que ce soit le DCU, qu'on parle de super-héros. Ce n'est pas le vrai fond de cette histoire, mais plutôt de rendre justice à un réalisateur privé de son film alors qu'il apparaît dans les crédits du film. Hein. Donc 70% du film ne lui appartient pas, qui a été re-shooté à la volonté du studio, et il apparaît quand même comme réalisateur du film. Privé en plus de sa liberté artistique, puisqu'on l'a retiré, on lui a mis des contraintes, on a essayé de lui enlever toute l'essence que voulait mettre Zack Snyder dans ses films, et en plus privé d'un proche. Donc là, on est dans un combo maximal dans cette situation qui n'aide pas forcément et qui a ému énormément de gens à travers le monde, puisque c'est une situation qui arrive souvent à Hollywood, où on ne laisse pas libre création aux réalisateurs, parfois pour de bonnes raisons, mais bien souvent pour de mauvaises raisons. La deuxième, c'est que la Snyder Cut offre une magnifique opportunité à la Warner de sortir un nouveau film pour seulement 70 millions de dollars, d'effets visuels et de reshoot pour lancer sa nouvelle plateforme de SVOD HBO Max. En conclusion, bon, voilà, Warner est un studio influençable qui, par intérêt ou problème interne, se retrouve dans des situations plus que compliquées, comme lors du visionnage de Justice League de Whedon, où tous les administratifs et producteurs du studio savaient que le film, je cite, n'était vraiment pas bon, mais qu'il n'avait pas d'autre choix, en fait, que de le sortir en état, quitte à se fracasser auprès de la critique. C'est quand même, je trouve ça incroyable d'arriver à ce niveau-là, d'incompétence et de se retrouver bloqué à devoir sortir un film qui n'est pas passable et pas fini, quoi. Mais bon, à la fin, la Warner est le producteur de tous les films de Christopher Nolan, que ce soit Inception, Interstellar, les Dark Knight ou dernièrement Tenet, mais aussi Gravity, les Harry Potter, Interstellar, les Dark Knight, je l'ai déjà dit, 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, mais encore Full Metal Jacket. Voilà. L'image de la Warner, je dirais personnellement que c'est le plus grand studio hollywoodien, mais avec les pires décisions de l'histoire du cinéma.
Oh, quelle critique au vitriol, là, Rolian. Voilà. Attention, tu dénonces.
Attention, je dénonce.
Sinon, je crois qu'on avait prévu un petit titre, que j'ai prévu moi-même, en deuxième partie de l'émission, juste avant la fin. Oh, c'est un titre de Cold Wave biélorusse, je vais vous laisser ça avec Molchat Doma.
Thank you.
Et donc c'était le titre de Molchat Dama, Sando, qui est un titre biélorusse de Cold Wave.
Sympathique. Sympathique.
C'est un peu leur tube.
En plus.
Biélorusse, pardon. C'est pas non plus le même pays. Après, ils parlent une langue à peu près pareille. Sinon, à chaque fois, chaque fin d'émission, ici, on s'est donné l'ambition de tenir un agenda culturel.
Alors,
et de la vie de bois. Bon.
C'est une très bonne question, Gavin, que tu poses là.
Ouais. Est-ce qu'on en a un, Olian?
Je vais y aller. je vais te laisser répondre.
Non, du coup, ouais, on n'a rien. Mais peut-être que Marie et Lucie, qui sont face à nous, ont des choses à nous dire pour le mois de mars.
Le 8 mars, du coup, il y a un appel de la CGT, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et du NPA également, à une manif également, une grève féministe qui est organisée au niveau national pour les travailleuses.
Et le 8 mars, le 8 mars, c'est lundi.
C'est ouais. Lundi, ouais.
Donc c'est aujourd'hui.
Voilà,
aujourd'hui.
C'est ça.
Aujourd'hui, venez nombreux à cette manif.
C'est ça, puis je précise aussi, je viens d'y penser, il y a la semaine L aussi, qui est organisée la semaine prochaine, dont le planning familial aussi va faire des actions sur leur compte Instagram, il me semble.
Très bien. Si tu veux, Marie, tu viens ici à chaque émission et tu nous fais l'agenda, parce que là, c'était très pro.
J'ai l'agenda manif.
Ah oui, l'agenda manif. Bon, bah... Merci Marie et Lucie pour nous avoir éclairé sur votre collectif de collage à Blois.
Bah, c'était très sympa. Merci à vous pour l'invitation.
Nous avoir invités, ouais.
Et sinon, on se retrouve le mois prochain.
Oui.
Et
salut les jeunes.
Salut les jeunes. Regarde.
Super les guitares. Putain la rythmique. Le pied dedans.
Waouh.